Lundi 6 janvier 1997, cours de Raveman sur Shir HaShirim au cercle du Frénois.
On y va. Kol Dodi Hineize Ba. Medaleg Al Hearim. Mekapetz Al Agvaot. Alors on va traduire. Kol Dodi. Kol, c'est la voix. Quelquefois, le fait d'entendre, on appelle ça aussi kol. C'est-à-dire qu'en hébreu, la voix elle-même s'appelle kol. Et la manifestation de la voix auprès d'un tiers peut aussi s'appeler kol. Donc quelquefois kol veut dire entendez. On peut entendre. Dodi. Mon ami, Hine Zeba, voici qu'il vient. Donc, entendez, mon ami, voici qu'il vient. Medaleg, il saute, Al-Heharim, au-dessus des montagnes. Mekapetz, ça veut aussi dire sauter. Enjambé. Non. À la Gvaot, on va voir tout de suite la différence entre les deux. À la Gvaot, sur les collines. Montagne, c'est plus haut. Giva, c'est plus bas. Montagne, c'est abrupt. Giva, c'est plus doux. Ok, voilà le verset. Alors, si vous vous rappelez des versets précédents, le chapitre avait commencé, et Viani El Bet Ayaïm, Vediglo Alayava, on parlait du Mont Sinaï. Maintenant, le peuple juif s'adresse à Kadosh Baruch Hu et reprend l'histoire depuis le début. D'abord, on a défini le rapport qui existe entre Dieu et le peuple juif, et maintenant, on recommence depuis le début. C'est ça que Rachid dit, qu'on parle ici de la sortie d'Égypte. Kol Dodi, on a entendu Dodi Nezeba, mon ami lorsqu'il venait, voilà comment il faut traduire, Medaleg Alearim, passer au-dessus des montagnes et sauter au-dessus des collines. Qu'est-ce que c'est les montagnes? Qu'est-ce que c'est les collines? On va d'abord définir aussi le mot Dodi, parce que ça devient urgent de le définir. Le peuple juif s'adressant à Kadosh Baruch Hu emploie le mot Dod. Le Midrash fait venir le mot Dod du mot Doé. Doé, ça veut dire aller vers. Par extension, un oiseau qui vole, on dit aussi Doé. Il y a des kanéchers. On s'approche comme l'aigle. C'est-à-dire voler pas seulement dans la notion d'être dans les airs, mais dans la notion d'aller vers. C'est ça le mot d'od. Le mot d'od, c'est un des mots que l'on arrive à lire des deux côtés. On a compris que le mot David vient du mot d'od. D'od, ça veut dire celui qui va vers vous. Et donc celui vers qui on va. C'est ça qu'on appelle ça l'ami. Dans les traductions françaises, vous verrez, il y a marqué mon bien-aimé. En quoi Akadosh Baruch Hu s'appelle Dod? Et quelles sont les extensions de ce mot Dod? On trouve un autre mot qui est appliqué dans la Gemara de Menachot à Avraham Avinu. C'est le mot Yodid. Yodid aussi, Le Midrash Yedid, Yedid, bien que ça vienne du mot dot, mais le Midrash le compose en deux, Yad Beyad. Yedid, c'est deux fois le mot Yad. La main aussi, c'est ce qui va vers. C'est pour ça que ça vient aussi de la racine Dao. Donc, Akadosh Baruch Hu. La définition que lui donne le Klal Israël, c'est celui qui va vers. Celui qui va vers le Klal Israël. Donc, c'est pour ça qu'ici on dit Kol. Dodi Inezeba, c'est comme ça qu'on devrait dire. On a entendu ou entend, je vais te raconter, Dodi Inezeba, voilà qu'il est venu pour me sortir d'Égypte. Il a été obligé d'aller à l'Arim ou me capette à la grande. Là, il y a deux sens. Un sens péjoratif. Et au contraire, on va essayer de voir les deux sens. Le Midrash dit, Dodi, ça s'applique à Moshe Rabbeinu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu est venu vers le peuple juif par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Bien que Dodi définit Akadosh Baruch Hu, ici en l'occurrence on parle de Moshe Rabbeinu. Inezeba, il a été envoyé par Dieu pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais pour ça, il a été obligé de sauter par-dessus les harim et les gvaot. Sachez que dans tout le Tanakh, chaque fois qu'on parle de Harim et de Gvaot, on parle toujours d'Avodah Zara d'idolâtrie. Harim et Gvaot, c'est le symbole de l'idolâtrie. Mishtachave la'ar, ça veut dire de prendre comme symbole, on mettait une Avodah Zara, on mettait quelque chose sur les endroits hauts. Ça veut dire que la hauteur, l'aspiration de l'homme est reliée à la Avodah Zara. Donc le Midrash dit, Inezeba, voilà qu'il est venu. Et il a passé sur les fautes du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu lui a dit d'aller délivrer les Bnei Israël, a posé une question. Il a dit, Halelu ovde Avodah Zara, ve Halelu ovde Avodah Zara. Les deux sont idolâtres, et les Égyptiens, et les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu lui a répondu. C'est vrai que les deux sont Ovdei Avodah Zara, mais le peuple juif, j'ai juré Avraham, Isaac et Yaakov, et Akimoti et Beriti, maintenant, ça n'est pas pour son mérite spécifique, c'est pour le serment que j'ai fait, le Brit avec Avraham, Isaac et Yaakov. Ça veut dire qu'il y a une permanence de l'histoire qui est que quoi qu'il se passe dans le peuple juif, le Brit ne s'arrêtera pas. Alors attention, le Brit dépend aussi du peuple juif, c'est pour ça que 4 cinquièmes sont restés en Égypte. On ne peut pas forcer non plus. Celui qui ne veut pas sortir, il ne sort pas. Mais le Brit du côté d'Akadosh Baruch Hu, il peut exister même si le peuple juif pratique l'idolâtrie comme il le pratiquait en Égypte. Là-dessus, les Chachamim demandent s'ils étaient tous Ovdei Avodah Zara. Alors, en quoi se distinguaient les Juifs? Ils se sont assimilés. Ils disent non, chez le Chinois et le Shonam, ils n'ont pas changé leur façon de parler. Le Chinois et le Wusham, ils n'ont pas changé leur façon de s'habiller. Ils n'ont pas changé et Shemotam, ils n'ont pas changé les noms qui étaient les leurs. Nous, ça nous est difficile de comprendre. Si tu pratiques l'idolâtrie, alors, en quoi tu as besoin de garder un nom juif, un habit juif, une langue juive? C'est difficilement concevable pour nous. Le hémet est que nous ne comprenons pas du tout ce que c'est que la Avodah Zara. Nous aussi, on a tendance à chercher les intermédiaires. Nous, il faut dire pourquoi la Avodah Zara s'appelle Zar, étranger. Chaque fois que j'essaie de me cramponner et de doubler le bon Dieu, d'avoir une certitude qui vient d'autre part, hein, et et pour laquelle je suis obligé de pratiquer un culte ou une action, on appelle ça la avoda zara étrangère. Étranger, ça veut dire tu veux doubler le bon Dieu. Par extension, bien que ce ne soit pas ça le issour, qui n'est pas interdit de la Torah, je peux, moi, pratiquer la avoda zara dans l'esprit, si ce n'est pas dans la lettre, chaque fois que je crois que ici je suis assuré et que je sais comment éviter ce qu'on appelle les coups du sort. Chaque certitude pour laquelle je peux donner l'importance à quelque chose, c'est un rapport avec la avoda zara. C'est seulement comme ça qu'on peut comprendre comment les Bnei Israël ont pu être Ovdei Avoda Zara. Ça veut dire que tout en restant juif, absolument, ce Yetzer Hara d'aller vers la avoda zara, c'est quelque chose qui est trop fort. Si nous on compare, alors on est presque entièrement dans la avoda zara. Parce que nous, nous passons notre vie à nous assurer selon et contre les coups du bon Dieu. Ça veut dire que quoi qu'on attache l'importance à des choses dont on pense que au moment où on sera tout seul, elles vont nous sauver. Et ça, ça peut être n'importe quoi. Pas obligatoire que ce soit l'argent. Ça peut être même les sentiments. Ça peut être énormément de choses. Chaque fois que je donne une importance à quelque chose et que ça fait écran entre la vision que j'ai de comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde, je donne une valeur intrinsèque à cette chose-là. C'est l'esprit de la avoda zara. C'est seulement comme ça qu'on puisse comprendre, puisqu'ils en avaient tellement de cette avoda zara. Deuxième chose, il faut savoir, de même que nous, on pense que ça marche. À la Gemara dans Brachot, comme ça c'est marqué dans Shulchan Aruch, elle donne l'obligation à tous ceux qui prennent un médicament de dire, Yehi Ratzon, que soit la volonté divine, Sheye Esek Zeh Lerefoua, que ce que je fais, ce soit pour la refoua. Ce soit pour guérir. Pourquoi? Parce que je ne dois pas oublier que le médicament n'a pas de force en soi. Le geste que je fais, c'est un geste que le bon Dieu m'a appris pour m'en sortir. Mais il en reste qui dépendra toujours de la volonté divine. Faire écran, ne pas penser ça, ça veut dire que il y aurait une valeur de refoi dans la chose elle-même. Ça, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire la avoda zara. Et la preuve que c'est difficile de s'en détacher, c'est que ça marche. Si ça marche pas, alors on s'arrête toujours au bon Dieu. Mais quand ça marche, c'est là où est le problème. C'est que la Gemara demande quand ça marche. Iratson, chez Essex Zélé refoi, pas quand ça marche pas. Quand tu trouves pas de médicament, ça c'est sûr que tu vas chez le rabbin demander du bracha. Mais lorsque on trouve un médicament, c'est là où c'est difficile. C'est seulement comme ça qu'on peut comprendre ce que le verset dit ici. Pour qu'Akadosh Baruch Hu vienne et délivre le peuple juif, il a fallu qu'il se place au-dessus, mot à mot, qu'il saute au-dessus des problèmes. Quels étaient les problèmes? C'est que le peuple juif était plus attaché à des valeurs sûres qu'à sortir d'Égypte. Donc ça c'est pour ça qu'il est sûrement pour le mot Dodi. Quelqu'un est venu à ma rencontre alors que je ne le méritais peut-être pas. Et on m'a sorti du système dans lequel j'étais. Ça, c'est la première chose. Que Dodi et Moshe, ça veut dire qu'on parle de ce moment-là. En vérité, dans le Midrash, il y a marqué encore une autre chose. C'est qu'ici, on ne fait pas référence à la avoda zara. Mais on fait référence au avot et au imaot. Avram, Isaac et Yaakov, ça arrive que Rachel veut dire. C'est que ce n'est pas péjoratif. On ne vient pas me dire, tu sais, tu ne méritais pas. Alors on t'a sorti. Arim et Kvot, on passe sous un voile discret les problèmes qui existaient dans le peuple juif. Il est zéba, me daleg aléarim, me capet salagvot. Ici, medalek, ça veut dire pas passer outre. Au contraire, medalek, ça veut dire en tenant compte de. Comme il avait des harim et des grottes, alors, passer au-dessus veut dire il les a pris en compte. Comme toujours, si on réfléchit, on voit que les différents avis du Midrash se rejoignent toujours. Parce qu'on peut poser une question. La raison pour laquelle Dieu a délivré les Juifs d'Égypte, c'est à cause du zrout, du mérite d'Avram, de Yaakov et d'Imaot, de Révéléa. C'est donc qu'eux ne le méritaient pas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a besoin de parler de zrout? C'était donc ça la réponse que Dieu a fait à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, tu as raison, alors de Rosa, Aval va qui moitié de Briti, moi, j'ai une alliance, et je suis obligé. La petite différence qu'il y a entre les deux interprétations est celle-ci. Il y a une différence entre le Brit Avot et le Zrout Avot. Là, il faut faire très attention. La notion de Brit Avot, c'est une notion d'alliance. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est attaché au peuple juif comme le peuple juif lui est attaché. Voilà. Il ne veut pas s'en sortir sans, on ne veut pas s'en sortir sans. La notion de Zechut Avot, le mérite des pères, c'est autre chose. Le Brit dépend de ce qu'on a appelé le Brit Belabtarim, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu a conclu une alliance avec un Kajbo. Cette alliance, elle a des Gdarim, elle a des définitions, elle a des limites. C'est un événement qui a attaché Dieu au peuple d'Israël et le contraire. Ça, on appelle ça le brit. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu a prié après la faute du Vaudan, il n'a pas parlé du brit. Il n'a pas invoqué le brit. Il a invoqué autre chose. Il a invoqué le zchut avot, zechor l'Avraham Yitzhak Uliakov. Il n'a pas parlé du brit. Le brit, il n'a pas été fait avec Yitzhak et Yaakov, justement. Il a été fait avec Abraham. Le zchut avot, on l'a déjà expliqué une fois. Ça vient, zchut, le mérite, vient du mot zach. Zach, en hébreu, veut dire pureté. Le zchut avot, c'est pas ce qu'on appelle en hébreu de la protection. Le type, il vient, il dit, j'ai un grand-père rabbin, j'ai un grand-père haram. C'est pas ça, le zchut avot. Le zchut avot, c'est que ce qu'ont pu réaliser les pères, il n'y a pas de raison que les enfants n'en soient pas capables. Ça veut dire qu'il y a une certaine zakout. Il y a quelque chose qui passe à travers le clan d'Israël et qui fait que j'ai le droit d'invoquer ce que l'autre a réussi pour qu'on me fasse crédit. Le zchut avot, c'est pour invoquer ce qu'on appelle la midat harachamim, le fait de juger quelqu'un, pas selon son dit, pas selon l'action qu'il a faite, mais selon son avenir. C'est ce que nous appelons le rachamim. Zchut avot, c'est de dire, Avraham, Israël et Yaakov, c'était des gens bien. Alors moi aussi, je peux devenir bien. Brit avot, c'est de dire, on a une alliance, on continue. À moi, je ne suis pas exactement comme il faut. C'est pas avec moi que tu as fait l'alliance. C'est avec Abraham et Tzavéa, quoi. En notre faveur. Ces deux choses sont totalement différentes. C'est pour ça que, dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, la Gemara dit que le Brit Avot, Tama, c'est possible que ça s'arrête. Le Zchut Avot, ça s'arrête pas. Le Brit, ça dépend. L'exil, est-ce qu'il y a des moments où il se manifeste, où il ne se manifeste pas? Il y a des conditions de brit. Le zchut avot, ce n'est pas des conditions, c'est une réalité. Regarde de quoi la personne est capable, de quoi tu es capable. Regarde le grand-père. C'est deux notions qui sont totalement différentes. La première fois, on parle du brit avot, la deuxième fois, on parle du zchut avot. Mais dans l'esprit, c'est la même chose. Lorsque je suis obligé d'invoquer le zchut avot, c'est-à-dire que la personne elle-même, je n'aurai pas de raison de la libérer. Seulement, je vais lui faire confiance par rapport à son avenir. Quel est son avenir? son passé. C'est son passé qui m'indique quelles sont les possibilités de son avenir. Ça, ce qu'on appelle le Sultavot. Donc c'est ça la différence entre deux interprétations du Midrash. Mais finalement, ça se rejoint. C'est-à-dire que lorsqu'on dit à la Gvaot, allez arrive à la Gvaot, les pères et les mères, ça veut dire que le cas Israël en vérité, lui, si on était obligé de le juger en Égypte, ça n'aurait pas été favorable à la sortie d'Égypte. Mais comme il y a le Zrutavot, le fait que les pères ont réussi, ben on va donner aussi l'occasion aux enfants de réussir. C'est deux notions qui sont différentes. On va continuer. Domé, Dodi, Litzvi. Attention. Domé, Dodi. Mon ami ressemble. Domé ressemble. Litzvi, Oser. Ou le Ofer à Ayalim. Ofer à Ayalim, c'est le jeune pharaon. Le fan. Hine, voici. Zé Omed, celui-ci se tient. Achar Kotelenu, derrière notre mur, Mashgiach Minachalonot, il surveille, Mashgiach, il surveille Minachalonot à travers les fenêtres, Metzitz, il observe, Minacharakim à travers les interstices, à travers les fentes. Encore une fois, Ine Zeomed, on va commencer depuis le début, Domedodilitzvi Oleoferayali. Mon ami ressemble au tzvi, au cerf ou au faon. Il est zéomed achar kotlenu. Voici qu'il se tient derrière notre mur. Mashgiach minachalonot, metzitz minachalonot. Ici, on parle à Kadosh Baruch Hu. On va voir que ça veut dire qu'il ressemble au cerf. Et on va voir que ça veut dire kotlenu. Il faut savoir que le kotlenu, le Midrash donne une interprétation littérale. L'interprétation littérale, c'est qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, Dieu a juré au peuple juif que le Kotel Amaravi, le mur ouest, parce que la Shrina, la présence divine, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, était dirigé vers l'ouest, Lo Zaza Meolam, elle ne sera toujours présente, et que ce mur-là, il y a deux Midrashim, le Midrash ici dans Shir HaShirim, il dit que le mur ne sera jamais détruit, et le Midrash dans la Torah dit, pas qu'il ne sera jamais détruit, que la Shrina restera toujours sur le mur. Deux expressions différentes pour la même chose. Il faut quand même se rappeler que c'est une interprétation que les Chachamim ont donnée au texte et qui est courageuse de la part des Chachamim. Parce que quand tu parles de l'avenir, on peut vérifier. Quand tu nous racontes des histoires sur le passé, tu dis, bon, tu risques rien. Tu dis, c'était comme ça, je ne connais pas. Tu me racontes. Mais quand tu me dis que voilà la Shoah et ce sera toujours comme ça, le Midrash, il a quand même 1300 ans, 1400 ans. En 1400 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Même plus que 1400. Donc, attention. Ici, le Midrash dit, qu'est-ce que c'est Domé Dodilitsi ou le Ofera Ayali. Vous avez tout de suite compris que le verset parle de la façon dont se conduit Dieu avec le peuple juif dans la galoute, comment c'était en Égypte et comment ce sera dans toutes les galoutes. Tsvi, Nirashi, cite le Midrash, Pahamim Rohim, Pahamim Nistar. Le Tsvi, c'est pas un animal domestique, tu le vois tout le temps. C'est un animal qu'on chasse. On doit le poursuivre. Quelquefois il se montre, quelquefois il ne se montre pas. Yatsvi et Oferayali, le fan. On va voir qu'il y a la différence entre les deux. Les deux ont cette caractéristique, quand on dit Tsvi, ça veut dire un animal qu'on doit poursuivre pour chasser. Il n'apparaît pas tout le temps. C'est pas que tu trouves le Tsvi à la maison et puis tu pointes la carabine. Non. Dans la galoute, il y a deux, ce qu'on appelle deux anagotes, deux conduites de Dieu vis-à-vis du peuple juif. L'une, c'est l'anaga begaloui, les choses qui se voient. Et l'autre, c'est la conduite de cette terre, des choses qui ne se voient pas. Quand on dit Domelitzvi ou l'Ofer Ayali, ça veut dire que quelquefois ça apparaît et puis ça disparaît. C'est pas que tu as gagné quand tu as vu quelque chose, ça peut redisparaître. Mais il est toujours là, Domelitzvi. C'est parce que tu le vois pas, il est Nista, il est caché. C'est un lieu commun que de dire, parce qu'on le dit souvent et tout le monde le sait, c'est marqué dans beaucoup d'endroits, la différence entre deux fêtes que nous avons, la fête de Pessah et la fête de Pourim, c'est qu'il y a une Geoula qui a été faite, le Galoui, aux yeux de tous. Et il y a une Geoula qui ne s'appelle pas par hasard Esther, parce que le mot Esther veut dire Vanochi Aster Astir, c'est-à-dire caché Mistar. C'est à toi de dire que c'est une Geoula. Tu donnes un goy à lire, il te dit, bon, c'est un roman. C'est une histoire, il n'y a pas d'histoire comme ça. À toi, tu parles du bon Dieu, pas obligé. C'est toi qui le vois ou tu ne le vois pas. Il est une histoire. Quelle est la différence entre ces deux choses-là? À propos de la délivrance de Pourim, les Chachamim disent que s'applique le verset Veraou kolaf se'aretz et Yeshua t'éloquim. Un jour, lorsque le Mashiach viendra, tous les peuples de la terre verront la Yeshua, c'est-à-dire comment Kadosh Baruch Hu s'est occupé depuis le début du peuple juif. Et ça, c'est pour lui. Nous, on aurait dit le contraire. Si déjà il faut voir, alors on voit mieux, t'as les 10 plaies, t'as la traversée de la mer Rouge. Il n'y a plus à voir. Pourquoi pourri? Alors là, il faut savoir une chose. Vous savez que dans la Gemara, dans le traité de Brachot, il est écrit que de même que nous, nous faisons des mitzvot, Akadosh Baruch Hu fait des mitzvot. Pourquoi? Il est marqué Ma Yisrael manirim tfilin, afa Akadosh Baruch Hu manir tfilin. Le bon Dieu met les tfilin. La Gemara demande qu'est-ce qui a marqué dans les tfilin du bon Dieu? Il ne va pas parler de lui quand même. Il y a marqué Mi Kamcha Israël, Goy Echad Baretz. Qui est comme le peuple juif? Goy Echad Baretz, un peuple unique sur la terre. Ok. Ça veut dire quoi ça? D'abord, je ne suis pas obligé d'imaginer que le monde est mérité. Mais si on, les Chacham sont exprimés dans la forme de Tfilin, ça veut dire qu'il faut que je comprenne ce que ça veut dire. Tfilin pour nous, c'est ce qu'on appelle le shivud, une soumission. De même que moi je dois soumettre mes actions et mes pensées à Kadosh Baruch Hu, de même à Kadosh Baruch Hu soumet ses actions et ses pensées au peuple juif. Voilà ce que je veux dire, pas plus. Pas que je dois imaginer sur quoi aimer les tfilin, comment aimer les tfilin. Est-ce que c'est entre les deux yeux, est-ce que c'est au-dessus, est-ce que c'est derrière? Ça veut dire, tfilin, c'est le fait de savoir que je donne des comptes. Akadosh Baruch Hu aussi, il doit des comptes au peuple juif. Ah. C'est ça ce que ça veut dire la gloire, tout le monde a conscience de cette interprétation. Seulement quoi? Il faut savoir que nous avons deux sortes de mitzvot. On a déjà parlé de ça. J'ai les mitzvot, 613 mitzvot. Négatives, positives, tu fais pas ci, tu fais ça. L'acte en soi, c'est mitzvot. Mais il y a tout un autre genre de mitzvot qu'on apprend du verset Bechol de Rachecha Daehu, c'est-à-dire tu connaîtras ou tu tiendras compte, Daehu veut dire tenir compte de Dieu, Bechol de Rachecha dans tous tes chemins. C'est que mes actions et ce que je fais, je peux le faire le Shem Shamaïm, c'est-à-dire en ayant un but. Et en ça, elles deviennent mitzvot, même des choses banales. Ou je peux les faire sans but, ou pour mon propre plaisir, ou pour mon propre besoin. Et ça n'a pas le titre de mitzvah. Les mêmes actions. Je peux donner un cadeau à quelqu'un parce que ça me fait plaisir. Je peux donner à quelqu'un un cadeau parce que je pense que c'est comme ça que mon Dieu qu'on fasse. Je peux aimer quelqu'un parce que j'en ai quelque chose, ou parce que je pense que aimer les gens, c'est ça ce que mon Dieu qu'on fasse. Je peux aller dormir, me réveiller, manger, tout faire en pensant que la vie, le monde est à la disposition, donc ce que je fais, c'est parce que le monde veut que ça se fasse comme ça. Et c'est comme ça que je veux le faire. Ou alors je peux le faire parce que Ah, il faut bien faire quelque chose dans la vie, alors on suit le cours. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi une, on l'appelle une mitzvah, et l'autre, on ne lui donne pas le titre de mitzvah? On dit, est-ce que c'est le Shem Shamayim? C'est pas le Shem Shamayim. Est-ce que tu l'as fait dans cette intention? Mais on ne donne pas le titre de mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui, dans l'action elle-même, est définie comme une mitzvah. Mais l'autre, l'action elle-même, ne définit rien. Tout dépend de l'intention et tout dépend du but. Deux personnes peuvent manger ensemble. Il y en a qui se posent la question, pourquoi le bon Dieu m'a donné un truc tellement fastidieux, pourquoi il faut faire comme ça, et comme ci, comme ça. Et l'autre, il mange des fraises, parce qu'il y en a des fraises. Tu ne vois pas de différence entre les deux. La seule différence qu'on pourra voir, c'est dans la façon dont la personne, on voit qu'elle se conduit, et on voit où les choses mènent, et c'est de là qu'on va voir l'intention. Mais sinon, tu ne peux pas le voir. Lorsqu'on dit que les ma'asim, chaque action, elle peut être le Shem Shamayim. C'est que l'intention, le but, lorsque on enlèvera ce qu'il y a d'extérieur, on découvrira que c'était le Shem Shamayim. Mais en tant qu'action, je ne peux pas la définir, en tant que Shem Shamayim, tout le monde fait la même. On est d'accord? Chez le monde, il y a aussi les deux sortes. Il y a des choses qu'il fait, il est soumis au peuple d'Israël. Alors, il le libère d'Égypte, ça se voit. Il y a des choses qui ne se voient pas. Quand est-ce qu'on le verra? Quand après on verra le but, on verra comment ça marchait. Alors on verra que tout ça c'était le Shem Shamayim. Tout ça c'était pour le peuple juif. Mais là, on ne voit pas. Verra ou kolav sehar et c'est Yeshua Teloin. Tous les peuples de la terre verront au moment du Mashiach. Ça c'est pour Him. Pourquoi? Parce que c'est seulement à la fin qu'on verra que toute l'histoire a été écrite, a été faite comme ça. C'est de ça qu'on parle. Pessah. Tu n'as pas besoin d'attendre le Mashiach pour le voir. Tu vois, une, on appelle ça le Esther Pali. Ça le tue, il se cache. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Et une, tu le vois. Quand tu le vois pas, il est là aussi. Sinon, c'est beaucoup plus embêtant. Parce que quand il n'est pas là, on a tendance à dire qu'il n'est vraiment pas là. Et c'est là que commence le problème. On va aller un petit peu plus loin. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Brachot. Dans la Mishnah elle est page 54. Il est marqué dans la Mishnah ceci. Que Shem, Shem Varachim al Atovot, Kach Mevarachim al Araot. De même qu'on doit faire une bracha lorsqu'on reçoit un bienfait. Dit la Mishnah, quelle bracha? Atov Vamitiv. Quelqu'un qui a eu un bienfait. Si on est à plusieurs, on fait Atov Vametiv. Atov Vametiv, ça veut dire Bahurata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Atov qui est bon, Vametiv qui fait du bien. Si on est tout seul, on fait le Shekhriyano. Kach Mevarachim al Hara. Qu'est-ce qu'on est Mevarach sur le Hara? Baruch Dayan Aemet. Bahurata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Dayan Aemet. Si le juge est vrai. Ok. Et maintenant, c'est bon. Il y a un petit mot dans la Mishnah, il y a marqué que Shem, de même que. Demande à comment accéder que Shem. La Mishnah numère les brachot, alors dis-moi. Ala tovot mevarer, atova metiv. Ala raot mevarer, dayan haemet. Pourquoi marquer que Shem, de même que. La Gemara dit un truc terrible. La Gemara dit nafkamina. Pourquoi il y a marqué le mot que Shem? Le kableno, le simcha. La bracha doit être faite avec la même simcha lorsqu'on fait Dayana Emet que lorsqu'on fait Atonamit. Comment on peut me demander une chose comme ça? C'est tellement une chose. Tu peux d'ailleurs un bon coup sur eux. On connaît beaucoup de personnes. Un deuil, un malheur, il fait Bahou Khana Emet. On n'a jamais vu rire personne. En plus, il serait déplacé. Pire que ça, non, on a dit Shem Baal Shem Tov. Rabbi Nachum Ish Gamzu, il dit toujours Gamzu le Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Baal Shem Tov, il a dit heureusement qu'il n'était pas là autant de membres Chayel Esther. Parce que sinon, quand il est apparu à Man, il aurait dit Gamzou le Torah. Mais il n'aurait pas prié rien du tout, il dit Gamzou le Torah. On ne peut pas vivre Gamzou le Torah. Il faut réagir là-bas. Comment on peut me demander une chose pareille? Rien chez moi me dit, tu as eu un malheur, frère Bracha, que Shem, Besimcha. On a déjà dit une fois que Simcha, c'est pas la joie. Ça veut dire les lampions. Ici, ça veut dire la sérénité. C'est-à-dire qu'avec la même perception que tu as quand il t'arrive quelque chose de bien, tu dis Baruch HaShem. Avec la même perception, il faut savoir que l'autre aussi savait la cause de moi. C'est pas qu'il n'est pas là. Voilà, dans ça. Donc ça, ça touche beaucoup de... Vous savez quand on est en Israël, il y a 2 ans, je crois, il y avait un garçon qui s'appelait Nachman Waxman, qui avait été pris par des Palestiniens, qui avait été torturé. Les parents étaient allés à la radio. Ils avaient demandé à tout le monde d'observer le Shabbat et d'aller au côté de prier. Après, on avait trouvé le jeune. Et on avait demandé au père. Il dit, tu crois toujours en Dieu? Regarde, le peuple du Shabbat, tu as prié pour lui. Le père, il a répondu une chose. Il a dit, quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on lui demande quelque chose. Il a le droit de répondre oui. Il a le droit de répondre non. Quelquefois, il répond non. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse. Il répond non. Cette réponse-là, elle n'est pas évidente. Je vais vous dire pourquoi. Nous, on prie. Parce qu'on demande ce qui est évident pour nous. Mais les chachamim ont été metaken que dans chaque prière, on dit ou au début ou à la fin, Yehi Ratzon Milfanecha. On va essayer d'expliquer ce que veut dire Yehi Ratzon. Yehi Ratzon Milfanecha, ça veut dire Yehi que soit Ratzon, la volonté, Milfanecha devant toi. C'est-à-dire que moi, je demande, selon ce que je comprends, selon ce que je crois, être bien pour moi, et être dans l'ordre des choses pour moi. C'est normal. Pas me demander d'imaginer des trucs. Ok. Mais je dois quand même être prêt à être soumis à la volonté divine. Et la seule chose que je peux demander, c'est pas que Dieu fasse ce que moi je veux, et qu'il doit me répondre oui ou non. C'est que sa volonté, elle soit comme la mienne. Voilà ce que je demande. Mais il est possible que non. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est possible que Dieu répond toujours oui. C'est pas qu'il répond non. Mais le oui, c'est selon sa volonté, pas selon la mienne. Et le problème commence ici. Ça, j'ai raconté un jour. Quelqu'un un jour est allé chez un rebbe pour demander une bracha. Un enfant qui était malade. Alors, il a dit, si jamais ça se passe mal, il a demandé à la mère, est-ce que tu es capable d'accepter? Donc, elle a hésité, elle a réfléchi. À la fin, elle a dit oui. Il a dit, si c'est comme ça, on peut prier. Parce que nous, on ne peut pas poser des conditions au bon Dieu. La prière, c'est pas de dire, fais ce que moi je veux. La prière, c'est qu'au lieu de s'adresser à ce qui n'est pas fiable, je m'adresse à celui qui est fiable. Mais comment je m'adresse? Moi, c'est ce que je veux. Que la volonté de la Kadosh Baruch Hu soit selon ce que je veux. Mais finalement, le problème, c'est sa volonté, c'est pas la mienne. À ce moment-là, la tefila a un sens. Mais de dire la tefila, c'est t'as un truc où t'as le droit de donner, tu vas te demander, mon Dieu, tu veux que ce soit comme ça, tu veux. C'est-à-dire qu'en répondant non, c'est trop dur de dire qu'en répondant. Pour nous, c'est non, selon ce qu'on a demandé. Mais on a quand même dit, Yiratsan il fallait qu'on se soumet quand même à la volonté. Ce qu'on demande, c'est que ce soit la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Mais plus je ne peux pas faire. très attention. Lorsque la Gemara dit le kablou de Besimcha, c'est ça ce qu'elle veut dire. Le Gemara vient et il explique. Il donne un machal. On a déjà parlé de ce machal à propos de quelque chose d'autre. Il dit, qu'est-ce que la Gemara veut demander de Besimcha? Qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà. Un jour, un père, il a dit à son fils, on va acheter de l'étoffe pour te faire un beau costume. Ok. Soit ils ont choisi précieusement l'étoffe. Le père, il a dit à son fils, fais bien attention, tu vas la mettre chez le tailleur. Mais attention, ça ne se déchire pas, ça ne s'accroche pas. Il est allé chez le tailleur, le père, il défait le tissu, il prend un ciseau. Il doit se commencer à hurler. Mais quelqu'un qui a de l'expérience, il sait que moi je ne dois pas déchirer le tissu. Mais c'est comme ça qu'on fait un costume. Dans les villes, il dit, le kablou de Besimcha, ça veut dire que quand c'est toi qui déchires le tissu, c'est un malheur. Quand c'est le bon Dieu qui déchire le tissu, c'est pas un malheur. C'est comme ça que ça doit être. Alors pour toi, c'est dur à avaler. Mais ça doit être vécu avec la même sérénité. Juste que c'est dur. Mais pas avec la notion d'injustice. Sinon, c'est comme le gosse qui refuse que le père lui fasse le costume parce qu'il faut d'abord couper. Il dit, maintenant, il y a deux façons. Il y a un gosse qui comprend qu'on lui explique. Et un gosse qui crie après le tailleur. Alors le tailleur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui rend le vêtement. Déchirer le déchirer. Il lui rend. C'est comme on a dit le kabel, le simcha. Les coups durs, on ne te demande pas de pavoiser. On te demande juste une chose, d'être un kabel. N'arrache pas le tissu de la main du tailleur parce qu'il a coupé. Parce que là, tu gênes. Ah, tu pleures, tu trucs, tu comprendras. Mais n'arrache pas. La même chose, on a dit à propos de ce qui a marqué dans le Marzor de Yom Kippour pour les Asara Ogé Malchut, les 10 qui ont été torturés par les Romains avec Rabbi Akiva, que les Malachim, les anges ont demandé Zou Torah Vezou Sarah. C'est ça la Torah. Et c'est ça le Sahara, c'est ça le mérite, c'est ça la récompense, c'est ça le... Que tu t'en prennes aux mécréants, on comprend, mais pas à cela. Zou Torah ou Zou Sahara. Là, il y a marqué dans le Marzon, Amar HaKadosh Baruch Hu, Yimeshma Kolacher, si j'entends encore un qui proteste, Arzir et Taolam le Tovavu, je remets le monde au Tovavu. Tovavu, c'est le début. Quand on commence à construire, c'est Balagan. Après, on arrange. Ben, devinez, demande, c'est quoi comme réponse? Si les malachim disent, malachim, c'est pas qu'on est obligé d'imaginer qu'il y a un malach, un machin. Malach, ça veut dire que c'est une vérité. Zou Torah, Zou Sahara, il faut répondre à cette question. Je dis, taisez-vous. Sinon, ben, il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne le même machin. Un roi a voulu se faire construire un vêtement. Mais l'étoffe était tellement précieuse qu'il a dit que je le donne au tailleur qui est capable de me prouver qu'il n'a rien pris pour lui. Chaque tailleur n'a pas voulu. Il y en a qui a dit ok. Il a fait le vêtement. Alors on a dit alors, comment est-ce que je vais voir que... Il dit tu vas défaire les coutures. Tu vas mettre bout à bout. Tu verras que c'est exact. Il a dit mais bon, c'est pas ça que je voulais. Moi je voulais pouvoir vérifier sans défaire le vêtement. Parce que sinon tu vas me le refaire. Et après je vais le défaire. Et on va continuer ça comme ça. Il dit on ne peut pas vérifier sans défaire. Quand je bourre, il a dit au Malachim, vous voulez que je vous montre comment j'ai construit le monde, comment ça marche? Ah, il faut recommencer tout depuis le temps. Et ça, on ne peut pas. Parce qu'on va recommencer, et de nous vous allez me demander. Et on va recommencer là. Esther Panim, c'est ça. C'est ça, Dominitzi ou le Ofera Yali. C'est pas une différence. Il y a le Tzvi, et il y a le Ofera Yali. Quelquefois, c'est le Tzvi. Ça veut dire quoi? Le Tzvi, il est moins rapide, il est plus visible, il est plus gros, il est plus massif. Et bien qu'il se cache, on le devine. Le fan est tout petit. Il circule, tu vois jamais rien. Même dans l'Ester Panim, il y a encore deux choses. Domilitzvi, mais attention. Oh, le Ofer Hayalim, même ça peut arriver, qui ressemble au Ofer Hayalim. Et là, ça va tellement vite que tu vois rien du tout. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai l'histoire de Pourim, telle qu'on me la raconte. C'est si bien organisé, le récit est si bien monté, que je prends tout de suite en mon Dieu. Ok. Mais dans la vie, on ne raconte pas l'histoire en me disant, tiens, lui, ça commence comme ça et machin. C'est à moi de le faire. Un, c'est lui, et l'autre, c'est offert à rien. Quelquefois, ça se voit. C'est tellement gros que ça se voit, bien, je vois. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça, c'est pas possible. Mais quelquefois, on ne voit pas. Alors, je dis, c'était à cause de ça, et peut-être, si, et peut-être, si. Et je commence à monter toute une histoire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de voir le offert à rien. Ah, si c'était à Tzi, je l'aurais vu. Mais ça, je n'ai pas vu. Maintenant, tout le problème est de savoir si tu sais deviner où il est le tzvi, bien qu'il est Be'ester Panim, bien qu'il se cache, tu sais l'attraper. Qui sait qui s'est attrapé et qui sait qui ne s'est pas attrapé? Ça, c'est ce que le verset dit après. Ine ze omed achar kotlenu, mashgiach min achalonot, metzitz min achar. Le Midrash pose une question. Ici, on dit que quoi? Le bon Dieu, c'est lui qui mène l'histoire. La preuve, en Mitzrayim, Moshe Rabbeinu est arrivé, c'est lui encore pire. Lui-même, il s'est rebellé. Il a dit quoi? Tu m'as envoyé pour qu'ils aient encore plus de travail. Même lui n'est pas arrivé à cerner. Donc ici, on vient me dire, ne t'en fais pas. De toute façon, Akash Borchou est surveillé. Demande le Midrash. Im Mashgiach Minacharodot. Lama Metzitz Minacharodot. Si le bon Dieu l'a défaite pour voir, qu'est-ce qu'il a besoin des interstices? Le Midrash répond. Kam bizman sheosim rotzono shel makom, kam bizman she'en osim rotzono shel makom. Mot à mot. Ici, c'est lorsqu'on fait la volonté divine, et ici, lorsqu'on ne fait pas la volonté divine. Les commentateurs demandent, si c'est comme ça, on dit au nom de Rebsim Chazit, c'est l'interrupt. Lorsque une mère surveille son enfant, et l'enfant joue dans la rue, si les volets sont ouverts et que la mère regarde par la fenêtre, la mère voit l'enfant, mais l'enfant voit aussi la mère. Si les volets sont fermés et que la mère elle regarde par les interstices, la mère elle voit toujours l'enfant exactement de la même façon, mais l'enfant voit pas la mère. C'est ça le pshat dans le Midrash. Kam bizman shosim rotzon shemakom, bizman shel osim rotzon shemakom. Si ton truc à toi c'est la sot rotzon shemakom, alors, il ne te regarde pas les fenêtres, ça veut dire quoi? Tu verras qu'il te voit. Si elle aussi retourne chez le Macron, alors, il te voit toujours. Mais toi, tu ne verras pas qu'il te voit. C'est le pshat dans le Midrash. Donc ici, je dois prendre le pshat dans le pasouk. Il est zomé d'achar kotlenu mashgiach min achalonot, metzitz min acharakim. Il est mashgiach min achalot, tu peux le percevoir aussi. Si toi, tu as envie de faire les choses seulement la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Et si tu n'as pas envie, de toute façon, il garde quand même. Selon toi, tu verras pas. Ça serait pshat dans le passou. Ça, c'est une des choses les plus difficiles. Pourquoi? Parce que nous, notre aussi rotsono shel makom, on fait dépendre toujours du contraire. Si on voit que le bon Dieu est là, alors on fait. Si on voit pas, eh ben on fait le contraire. Premier problème. Quelqu'un qui a le bon Dieu l'aide, il voit. Alors il se dit, bon ben, je suis attiré à faire la retourne chez Macron. Mais si c'est le contraire, j'ai une idée de ça en tête. C'est le contraire. Alors attention. Maintenant, on peut comprendre le mot Dodi. Parce que dans le Midrash, dans le Yalkut Shimoni, il ramène un Midrash qui dit que le mot Dodi, ça vient du mot Ata, voir, venir. Et il dit, c'est ça le verset, Achivez-nous, Hachem, Elecha, Chadesh Yamenu Kekelem. Nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, Achivenu, ramène-nous vers toi. Le Midrash dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? Shuvu Elai, Vashuvu Alechem. Revenez vers moi, et moi je viendrai vers vous. Alors on s'en sort jamais. Dodi, c'est celui qui vient. Allez, c'est vient du mot à ta venir. Tu dis viens. Très bien. Mais lui te répond, viens. Comprends le problème, c'est ça le vrai problème. Quelqu'un vient me dire, voilà, que les tsarot, Esther Panim, Tal Shoah, Macha, tout ce que tu veux. Tu dois voir la volonté divine. Très bien, je veux bien. Mais le clan Israël demande autre chose. Il dit Hachivenu Hachem Elecha. Alors, c'est ça ce qu'on veut. Le bon Dieu répond Shuvu Elai, venez vers moi, Vashuvu Alechem, et moi je viendrai vers vous. Comment on va s'en sortir? Vous comprenez? Il est possible qu'on s'en sorte par le verset lui-même. Nous, on croit que d'abord, nous, on demande à Chimeno, et après, le bon Dieu répond, Shuvu Elai. Mais il y a des gens qui comprennent le contraire. C'est que le bon Dieu demande d'abord Shuvu Elai, et nous, on demande à Chimeno. Ça, ça marche. Ça veut dire quoi? On a le droit de dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Si tu dis à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, c'est que ça tu veux venir. Donc les deux versets marchent ensemble. Tout dépend qui commence. Si on apprend que le pshat il est, moi je commence, je dis à Jiveno, moi je reste, je veux voir des missimes, je veux voir des trucs, je veux voir la réussite, je veux, ah si tout marche bien, alors je viens. Alors le monde est dit, non, non, c'est le contraire, tu viens après, je vais. Alors ça ne sortira jamais. Mais si le passo qui commence pas comme ça, parce que le passage qui parle de la perception de l'homme, il ne parle pas de la réalité. La perception de l'homme, c'est qu'un homme, il doit sentir que dans toute sa vie, et la raison pour laquelle il a été créé, c'est parce qu'à Kadosh Baruch Hu lui dit, Shuvu Elai. C'est que tu dois retrouver les raisons pour lesquelles à Kadosh Baruch Hu a retrouvé le monde, a fait tourner ce monde, a créé ce monde, t'a créé toi, dans ta propre vie, c'est à toi de le trouver. À partir du moment où tu es conscient que c'est ça le problème, donc tu es conscient qu'il nous demande et il te dit, Shuvu Elai. Alors à partir de ce moment-là, tu dois demander à Chivenu. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas de tout faire tout seul. Mais là, on a inversé les mots. Parce que le verset, il ne parle pas « Le bon Dieu me dit, moi je lui dis ». Il parle ce que j'imagine que le bon Dieu me dit, et voilà ce que moi je lui dis. C'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en vérité, le bon Dieu ne dit jamais rien. C'est à moi de comprendre ce qu'il me dit. Et si tu comprends de travers, ben il t'a dit de travers. C'est ce qu'on appelle le Esther. De Galoui, on te fait l'Aïssat Mitzray. Il ne faut pas croire que lorsque c'est de Galoui, ça marche toujours. La preuve, 4/5 sont restés. Même si c'était de Galoui. Parce que le Galoui, il n'est pas toujours Galoui pour tout le monde. Même la sortie d'Égypte. Sinon, 4/5 ne serait pas resté. Parce que rester, c'est un choix. Mais même ce qui n'est pas galoui, ce qu'on appelle le esterpanim, la difficulté, elle ne prend un sens que lorsqu'on se rend compte que c'est ça le but. Le but, il est que l'homme se rende compte que la création, elle est faite avec un voile qui recouvre entièrement la présentille. Sinon, tu n'aurais pas de choix. Ton choix, c'est de comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu il dit, Shuvu Elai. Alors à ce moment-là, tu peux dire, bon, moi j'arrive pas tout seul, il faut m'aider ça, tu as le droit de demander tout ce que tu veux. C'est ça le sens de la prière. Le sens de la prière, c'est pas, comme on a dit, tu demandes, il te répond oui ou non. Le sens de la prière, c'est de dire, j'ai compris ce qu'on me demande, mais tout ça, je ne peux pas y arriver, alors ça, je dois demander. Ok. Quelqu'un dit d'y arriver tout seul, tu arriveras tout seul aussi. Ça dépend du Ratzon Hashem. Ça, je ne peux pas préjuger. Donc je ne suis pas obligé de dire le monde il a répondu non. C'est pas qu'il a répondu non. C'est qu'ici, il faut que je me débrouille tout seul. Ce qui ne veut pas dire que la prière est bête et qu'elle n'a pas été entendue. Elle est très bien entendue, tu as très bien fait de prier. Mais il y a des fois, il faut se débrouiller tout seul. C'est là où c'est pas évident. La plupart du problème du juif dans la vie, c'est ça. C'est comment comprendre que j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une bonne chose, le monde n'est pas obligé du tout de me payer, de me montrer qu'il est content. Je n'ai pas de droit vis-à-vis de lui. La seule chose que je peux demander, c'est qu'il m'aide. Mais si tu as demandé qu'il m'aide, c'est que tu as compris que c'est toi qui dois faire. Ça, c'est ce qu'on appelle Dodi. Dodi, ça, ce qu'il nomme, ça vient, hein. Doé, ça veut dire aller vers. Maintenant, qui va vers qui? Toi, là, tu as le problème. Si quelqu'un, il a senti que le but de la création du monde, c'est que l'on puisse aller vers la Kadosh Baruch Hu, alors, il est évident que il peut se dire, moi, je suis petit, je ne suis pas capable, je suis ceci. C'est vrai. Tout ce dont, selon toi, besoin, ça devient la Kadosh Baruch Hu. Demande ce dont tu as besoin. Mais le demande, c'est pas en tant que condition, je veux, je peux, je veux. C'est parce que je veux qu'on m'aide de cette façon-là. Il a choisi de t'aider d'une autre façon. Mais il t'aide. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le sens de Simcha. Attention, ça veut dire que c'est facile. Ça ne veut même pas dire que celui qui pense qu'il est le Simcha, il a vraiment raison. Parce qu'il y a aussi des fous. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on ne vit pas, pas quelque chose d'irréel, il faut faire un bon. Ça veut dire que le type qui fait de l'émet et qui rigole ou qui ça y fait le simcha, c'est un imbécile. La simcha, c'est pas que je dois manifester que ça y est, je suis content. Le type il est entièrement content. Allez, bordel. C'est qu'il doit comprendre que ça marche comme ça. Et que ça veut pas dire que le monde n'est pas là. Et ça veut pas dire que ça ne s'adresse pas à toi. Ça veut pas dire que tu n'es pas exactement où il faut être. Mais non, le fait que ce soit dit, hein, ça ne doit pas empêcher cette sérénité-là. Il est même pire que ça. Quelqu'un peut supporter énormément de choses à une seule condition. S'il pense pas que c'est injuste ou s'il pense pas que c'est pour rien. Moi, j'ai toujours été étonné. Il y a des gens qui subissent des opérations une après l'autre. Et ils retournent toujours sur le bien. Des issues, des trucs. Et ils tiennent le coup. Il y en a d'autres, un petit coup, bon, ils sont partis. C'est que ça. C'est que l'un pense que ce qu'il est en train de faire, ça a un sens. Ah, pour ça, il faut suivre les opérations, ça. Il est prêt, il le fait. Il le fait presque de Simcha. Pourquoi? Parce que, c'est vrai que ça va être difficile, mais c'est ma solution. La sérénité n'est pas enlevée à cause de ça. Ma chérie, si quelqu'un pense que là c'est le coup du bon Dieu, que de toute façon ça n'a aucun sens, ça ne sent pas, pourquoi voudrais-tu qu'il puisse supporter une chose pareille? Un enfant ne comprend pas que la première piqûre qu'on lui fait chez le dentiste, c'est pour qu'il ait pas mal. Il ne comprend pas. C'est difficile dans la vie de se comporter comme ça. Mais c'est ça le sens qu'on voit Rabbi Akiva, Gamzu Tova, qu'on voit la Rouge de Gamzu. La Gamzu Tova, ça ne veut pas dire que, comme on dit en blaguant, bon, c'est bien, c'est bien comme ça. C'est pas ça le problème. C'est que, puisque c'est comme ça, alors on va faire comme ça. Et ça n'a pas moins de sens que si c'était le contraire. Ça, ça s'appelle Osero Tsoro Shel Makom. Donc la personne, elle est dans la difficulté, elle est dans la douleur, mais elle n'est pas dans la détresse. Ce qui fait mal, c'est la détresse, c'est pas la douleur. La douleur, on sait faire avec. Avec la détresse, on ne sait pas faire avec. Quelqu'un dit ça va te faire mal, il faut passer ça. Ben, il accepte. Ça, me page tout, c'est le sens du verset ici. Kol dodi inezeba. C'est pas que, allez, à Kadosh Baruch Hu vient, il te dit, non. C'est que, quelquefois ça marche comme ça, quelquefois ça marche comme ça. Avant, c'est pas qu'il n'était pas là. Après, c'est pas qu'il va t'abandonner. Le circuit reste toujours le même. Tout le problème, c'est d'arriver à le cerner. Ça serait comme elle dit, le câble de Simcha. Le Simcha, ça veut dire, la même sérénité doit être là. Mais là, ça c'est une difficulté. Tu pleures, alors tu pleures. Un jour, quelqu'un, Il a demandé au Chofetz Chaim. Chofetz Chaim, il a perdu un fils à 20 ans. Le fils du Chofetz Chaim était connu dans tout le monde à Torah, comme étant un génie. À 20 ans, il est mort. Son enterrement de Chofetz Chaim, il a fait un espèce. Il a dit, ce que mon fils a fait en 20 ans, à l'autre, il a besoin de 120 ans. Il n'a pas besoin de plus. Ce qu'il avait à faire, il a déjà fait en 20 ans. Bon. Quelqu'un de sa famille, après, il a osé, il a demandé à Chofetz Chaim. Puisque ton fils, il a accompli en 20 ans, ce que d'autres, peut-être, ça va être plus de temps, c'est pour ça qu'il est mort jeune. Pourquoi tu pleures? Et il n'a rien compris. Il a dit, mon fils, chaque année, il partait à l'Yeshiva. Il venait me dire au revoir. Je ne pleurais pas. Et pourtant, j'étais pas possible quand il allait à l'Yeshiva. Les deux choses vont rien. Quelque chose peut être dur, mais la simcha est là. Simcha ici, ça ne veut pas dire... Mais ça veut dire que je sais que c'est comme ça, et j'accepte que c'est comme ça. Ça peut même quelquefois me faire plaisir que ça soit comme ça. Mais alors est-ce que c'est dur? Il dit, c'est la même chose. Il dit, mon fils, il est pareil. Je sais que là où il est bien. Je sais que ce qu'il fait, c'est bien. Je sais que ce qu'il a fait, c'est bien. Maintenant, ça peut être que c'est facile. Les deux choses, on peut les distinguer. Ça, je dirais même que plus le coup est dur, plus c'est facile. Là où c'est difficile, c'est dans toutes les petites choses de la vie. Parce qu'il n'y a rien qui marche comme on veut. Et là, de trouver la même démarche, c'est encore plus difficile. Parce que là, c'est gros comme une montagne. On n'a presque pas le choix parce que ça met trop de choses en cause. Mais lorsque c'est moins gros, là, ça commence à être difficile. C'est-à-dire que pour les immenses tzarotes, on sait raisonner. Mais pour les petites tzarotes, on ne sait pas raisonner. Et c'est là où on voit où est-ce qu'on se situe. Ça veut dire que on doit pouvoir arriver à cette madriga qui est de ne perdre la sérénité à aucun instant. Le fait que ce soit dur n'empêche pas que c'est vrai. Et une chose qui est vraie, la détresse n'est pas là. C'est ce qu'il dit dans le Mizmor, David Ameler, il dit comme ça. Gam qui est l'air begen saimavet. L'oïra qui a taïmet. Même lorsque j'irai gate saimavet, ça veut dire un endroit où plane l'ombre de là-bas, où je suis menacé de toutes parts. L'oïra qui a taïmet. Je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. Le pshat, il n'est pas, hein. J'ai pas peur alors je fais rien. Quand il fallait se battre avec Shaul, il s'est battu. Il fallait se battre avec Tizan, il s'est battu. C'est pas qu'on se bat pas, on dit à Taïmadi, je fais rien. C'est que quand on se bat pas en pensant que si on gagne, on gagne, c'est fichu, c'est fichu. C'est que dans les deux cas, ce qui doit être est. Et ce qui doit être fait, est fait. Et ça ne doit pas empêcher le fait de se battre. Et ça, c'est assez difficile. Parce que c'est vite fait de dire, hein, parce que c'est le bon Dieu, alors on perd tout. Ça y est, on fait quand même. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut savoir que le kavod de simcha, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce que toi tu dois faire, tu dois le faire. Maintenant, l'obligation de résultat selon ce que toi tu penses être le résultat, à ça il ne faut pas s'accrocher. C'est pas ça le principal. À partir de ce moment-là, on peut dissocier deux choses. Il y a une qualité de la vie qui peut être toujours bonne et qui peut être qualifiée quelquefois de mauvaise ou de dure ou de difficile ou de dramatique. Elle n'empêche pas de vivre des choses vraies. Deux choses différentes. Ce n'est pas des parenthèses. La plupart des gens, lorsqu'ils ont des tsarotes, ils se mettent entre parenthèses. Hibernation. Ça, c'est ce qu'on appelle la détresse. Ça, on ne peut pas guérir. On ne peut pas soigner ça. Ça, ce que le verset dit, ça ne doit pas exister. Ah, tu dis, mais regarde Mitzrayim où ils ont été, mais tout. La preuve. Quand même en Égypte, c'était comme ça. C'est lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, c'est au regard d'Arachi, et les Israéliens ont dit, mais c'est pas encore le temps. Mais Arachi dit, Moshe Rabbeinu, il a dit ce verset. Medaleg aleharim kapetz al hagvaot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que le temps n'ait pas passé, à Kadosh Baruch Hu, il a fait vite, et il a surmonté les obstacles. Comment il a fait? C'est que la galoute de Mitzrayim, on l'a compté à partir de la naissance d'Itsrak, parce qu'il était porté à Israël. Et on l'a ramené à la galoute d'Égypte de 200 à 210 ans au lieu de 400. Ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, guerrier Zahra, Beretz Moab, Arba Motshana, 400 ans, et que les Israël croyaient 400 ans à partir du moment où on est descendu en Égypte. C'est faux, c'est à partir de la naissance d'Israël, parce que c'est le klal dont on a parlé de la galoute. C'est pas ceux qui sont descendus en Égypte. Et le klal, il a commencé à partir de Israël. Qu'est-ce qu'on se pose? Combien d'âge il a compris ça? Toi, tu viens délivrer des gens, ils te disent, mais c'est pas le moment. Mais si tu pensais qu'il faut pas 5 ans, alors pourquoi tu te plains? La réponse, elle est, quelqu'un, il sait que ça a un sens. Mais ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Alors je me plains. Mais ça veut dire que je pense que ça n'a pas de sens. Et bien, ça les était en Égypte. Quand il a vu mon cher Béon, il a dit, tu te trompes, c'est pas le moment. Ah, tu dis, mais si tu veux pas sortir, pourquoi tu te plains? Mais les deux choses n'ont rien à voir. Je me plains parce que c'est pas supportable. Mais je crois pas que le monde va oublier. Ça, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Quelqu'un doit pouvoir prier parce que c'est pas supportable. Mais de penser que le monde est oublié, il a répondu, non, mais rendez-vous, il est tout seul, c'est tout seul, non. Ça, je suis pas obligé de dire. Ah, il a un autre plan pour moi? Ok. Ça, on n'est pas toujours d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on m'a répondu non. Allez, dégage, c'est pas vrai. On m'a répondu oui. Maintenant, ce oui-là, c'est pas ce que je voulais. Parce que moi, j'imagine autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Tout le monde sait l'histoire de la tribu d'Éphraïm. Eux, ils ont décidé qu'ils en avaient assez. Ils sont partis. Ils ont été tués par les Philistins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu penses que le monde est abandonné et que maintenant tu es tout seul, c'est là où tu risques le monde. Parce que c'est une chose qui n'existe pas. C'est l'enfant qui reprend le tissu du tailleur. Ah, tu reprends le tissu du tailleur. Débrouille-toi. Là, c'est là que ça commence à aller mal. Maintenant, il faut quand même comprendre une autre notion. Il y a ce qu'on appelle le destin individuel et ce qu'on appelle le destin collectif. Destin individuel, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle Ashgaha Pratit. Chacun, il a la vie que le monde a construite pour lui. Il n'a pas le même départ que l'autre, il n'a pas les mêmes éléments de départ que l'autre, mais il a la vie que le monde a construite. On lui demandera après des comptes selon la vie que le monde a construite. Pas selon ce que le monde a construit. Alors, ok, ça on comprend. Mais il y a une notion de clan, une notion de destin collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation qu'Akadosh Baruch Hu a avec moi, c'est vrai qu'elle est individuelle, mais elle est aussi collective. En quoi elle est collective? Ce que l'on appelle le clan Israël, le Am Israël. Ça veut dire qu'il y a une histoire dans laquelle tu t'insères. Comment est-ce que le destin collectif et le destin individuel collent ensemble? C'est une des choses les plus difficiles à comprendre. Mais on est obligé de comprendre cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'un homme a besoin d'un destin collectif et il ne peut pas se suffire d'un destin individuel. C'est pour ça que Dieu a créé une notion de peuple. Il n'y a pas que des individus sur la terre. Il y a aussi des peuples. Dans la terminologie de la Gemara ou du Midrash, ça s'appelle le Sar. Chacun a une destinée. Encore une fois, chaque peuple il a un Sar. Sar, ça veut dire un ministre, un protecteur. On n'est pas obligé d'imaginer que le bon Dieu il est là au milieu du gouvernement et que chacun y représente. Sar, ça veut dire qu'il y a un destin pour chaque peuple. Ce qu'on appelle un destin collectif. Pourquoi j'ai besoin de ce destin collectif? Parce que on est obligé de se donner une définition qui est extérieure pour qu'on puisse avoir des repères. Le klal me sert à ce que les repères soient toujours les mêmes. On ne peut pas mener une vie sans l'autre. À partir du moment où l'autre, nous on a dit même pire que ça un jour, c'est l'autre qui me donne toute la liberté. Si j'étais tout seul, je serais enfermé dans une prison. Le fait qu'un autre existe, j'ai déjà une liberté. Je peux le taper, je peux lui parler, je peux être gentil, je peux être méchant. J'ai mis liberté, mais c'est l'autre. Mais on n'a pas besoin seulement de l'autre pour pouvoir agir. On a besoin aussi de l'autre pour pouvoir se définir. Parce qu'on ne peut pas se définir uniquement d'une façon autonome. Donc on obéit aussi à un destin collectif. Ça aussi, c'est un peu révoltant. Pourquoi ? Quand j'ai dit, quand il sera là, il me s'est basé, tu fais une bêtise, moi je suis coupable. Tu fais une... Eh, pourquoi ? Pire que ça, la grande Rokama, elle dit que chez Nitam, Roshut, la Mashrit, le Chabel, El Mafrin, Ben Tzadik, le Rachat. Lorsque Dieu permet au Mashrit, c'est-à-dire au destructeur, de détruire le clan d'Israël, il n'y a plus de différence entre le Tzadik et le Rachat. Tu sais pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le destin collectif. Il y a des repères desquels tu n'es pas comptable, c'est vrai, c'est pas toi qui les as définis. Tu es obligé de naître dans une certaine forme, qu'on appelle ça, le clan. Chacun a un peuple, chacun a une terre, chacun doit avoir une façon de se définir, mais doit être extérieur à toi. Cette soumission, ça fait partie des choses dans lesquelles tu dois te mouvoir, mais tu n'as pas le choix. C'est défini par la notion de clan. Ça, c'est ton repère. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait que des individus, il n'y aurait pas de repère. Pire que ça. De même que je nais à une époque et que j'ai les idées de l'époque, je nais dans un clan et j'ai l'idée du clan. Et ça aussi, c'est un destin collectif parce que je ne peux pas y échapper. Je peux réagir, je peux changer un peu les idées. Et à travers les idées générales, chacun peut avoir des idées personnelles à lui. Mais on n'échappe pas aux idées de son temps. C'est impossible. On peut agir contre. Donc le point de départ, il est quand même. Tu es obligé d'aller contre. C'est aussi une soumission. On est obligé de se définir parce que la notion individuelle n'est pas assez forte pour qu'un homme ait des repères. Il est obligé d'avoir ses repères dans une notion qui est collective. Lorsqu'il y a marqué qu'il y a une hashgaha pratit, ça c'est la dernière interprétation du Midrash. À l'Arim et à la Gvaot, Arim c'est collectif et Gvaot c'est individuel. Il y a des moments où le destin individuel et le destin collectif, l'un doit être soumis à l'autre. Ça, c'est une restriction de la liberté. Elle n'est pas pire. Hein. Que la restriction de la liberté qui est que je suis né de tel et tel parent et pas d'autre. C'est pour ça que c'est une référence qui me poursuit. Quoi que je fasse, il y a un genre. Et même si ça tend à s'estomper, en ce qui concerne le clan d'Israël, non. Il y a un genre allemand, il y a un genre anglais, il y a un genre français, il y a des gens. C'est difficile d'échapper à ça. C'est comme difficile d'échapper au tic de ses parents. C'est difficile d'échapper. Ah, on peut, toute sa vie, on peut poursuivre et essayer de ne pas ressembler à ses parents. C'est bête. Parce que de toute façon, c'est aller contre quelque chose qui fait partie des constantes. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu se manifeste d'une façon galouille, d'une façon qui est aux yeux de tout le monde, c'est toujours collectif. Lorsque c'est à la Gvaot, d'une façon qui est moins révélatrice des choses, c'est individuel. Me capetz, allez arrive, ou me daleg à la grotte, ça veut dire qu'ici, il a fait fi des destins collectifs, des destins individuels, et on a mis tout le monde dans le même paquet. Il y a certaines règles. Klal Israël, il est formé. C'est la notion, la kachat, le goy, mikir el goy. Le bon Dieu, il s'est forgé un peuple. J'appartiens au peuple juif. Ma destinée, ça va être le peuple juif. Tu le veux ou tu le veux pas, ça ne t'entraîne pas toujours. Le pire, c'est que moins on le veut, plus ça vous rattrape. Normalement. Maintenant, comme tout, il y a aussi une façon de s'en sortir. C'est que je peux changer de destin collectif. Mais j'aurai un autre destin collectif. C'est celui du goy. Je peux changer. Moi-même, c'est difficile, mais mes enfants, c'est sûr que je peux changer pour eux. Ça dépend à qui je me marie. On peut changer, on peut faire sortir. Mais de toute façon, on n'échappera pas. T'en as fait un Rwandais, eh ben il aura le Rwanda. T'en as fait un Mexicain, il aura des tremblements de terre. Chacun ne peut pas échapper à ça. C'est pour ça que de penser que il y a des destins collectifs qui sont plus libres, ou qui sont plus aisés, ou qui sont plus faciles, c'est une utopie. C'est même une bêtise. Vous comprenez? Parce que ça dépend de tellement de paramètres qui ne dépendent pas de la personne, ça n'a rien à voir. On ne peut pas échapper à ça. Ça, c'est la notion de ce qui a marqué « Umik Amra Israël ». La première définition qui tu es, tiens Israël. Donc, tu dois obéir à ces définitions-là. Ça, c'est le destin collectif. Que tu le veuilles ou non, ça te rattrapera. Me capets, me daleg, allez, arrive. Et des fois, on bouscule. On est là, on bouscule. Si on devait aller comme ça, moi, de d'un coup. Ce qu'on appelle Ashgaha Klali. Il y a ce qu'on appelle Ashgaha Pratit. Que ça dépend de la personne elle-même. Ah, il va être heureux, l'autre, il va être malheureux, il va être chouette, pauvre, intelligent, l'autre bête. À ça, c'est ce qu'on appelle Gvaot. Comment les deux arrivent à se conjuguer parfaitement, c'est une chose qu'on n'arrive pas à imaginer. Parce que même si on pense que le monde est les ordinateurs les plus puissants à disposition, de tout faire coller ensemble pour que tout soit juste. Mais en tout cas, c'est le sens du verset. Moshe Rabbeinu dit Atsur Tamim Paolo, qui chol de Racham Mishmat. Atsur, notamment le rocher, celui sur qui on peut s'appuyer. Tamim Paolo, son œuvre, elle est intègre, elle est entière. Qui chol de Racham, tous ses voix, Mishmat. Donc on a commencé à dire chol de Racham, tous. Pourquoi tu ne pensais pas tous? Et moi, je réponds, c'est très simple. Un juge, lorsqu'il juge un individu, tous ceux qui sont autour, ils pâtissent pour rien. Autant que tu conçois un mishpat, de faire coïncider un destin collectif avec un destin individuel, c'est pas possible. Quelqu'un qui a fauté, tu veux mettre 10 ans de prison. Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait, l'SDF? Ses enfants vont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont avec le problème? Alors tu dis, c'est Dracha Mishpat, mais pas Kol Dracha. En même temps, tu ne peux pas faire coïncider. Destin individuel et collectif, les faire s'imbriquer exactement pour que ça soit la vie de la personne de laquelle elle doit rendre compte, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, Kol Dracha Mishpat. Destin individuel et destin collectif, ils sont exactement ce qu'il faut pour la personne. Ça, c'est pour nous une chose qui est difficile à concevoir. C'est difficile à concevoir. Sachez qu'il y a une limite. Abraham a vu lorsqu'il s'agit de Sodome, il est prêt à détruire toute la ville. Agam, Yamit, Tzadik, Imracha. Wow, il n'y a pas d'estin collectif, j'ai l'estin individuel. Donc il y a des exceptions. C'est pas si évident que ça. Comprenez? Parce qu'il faut savoir, dans certains cas, qui détermine le destin collectif. Est-ce que c'est la majorité ou que ça peut être la minorité aussi? Donc même de discerner un destin collectif d'un destin individuel, c'est très difficile. Parce que qui détermine le destin collectif? Avraham Avinu, on est arrivé à marchand avec Akadosh Baruch Hu, que dit Tzadikim peut déterminer le destin collectif de tous les hommes à mort. Pourquoi? Parce que dit Tzadikim ont la force à ce que tout marche. Il a commencé par 50. Après 40, il arrive à 10. Avec 10 personnes, tu changes une ville. Nous n'aurions pensé que non. Une ville ne peut pas dépendre de 10 personnes. Même de 50. Avant de la pensée, et le monde est bon. On trouve 10, c'est bon. On n'a pas trouvé 10. Mais s'il avait trouvé 10, ça aurait été bon. Donc, qui définit le destin collectif? Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Mais en tout cas, on doit poser que ça existe. Comment ça va s'imbriquer dans ma Ashgaha Pratit à moi, dans mon destin individuel? Donc c'est la question, il faudrait recommencer le monde pour savoir comment les choses ont été déterminées pour déterminer ça. Mais ça, c'est le dernier sens du verset. lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu et il a pris le Klal Israël, il a pris des individus, il a prouvé la 4-5-1 qui sont restés, ceux-là oui, ceux-là non, chacun un destin individuel, il a tout fait coller avec le destin collectif. À la Gvaot et à l'Arim. Et Arim, c'est collectif. Gvaot, c'est individuel. Bon, il y a sûrement des questions. Donc, tout le monde en même temps. Ouais. L'alliance. Il y a des périodes où on ne peut se référer à l'alliance que dans l'avenir et pas dans le présent. C'est la période de l'exil. Il y a marqué, si vous regardez, dans deux endroits. Dans Vaïkra, dans la paracha de Chukotai, et dans Devarim, dans la paracha de Kitavo, il y a marqué, après tous les malheurs qui vont s'abattre sur le peuple juif, ou qui se sont abattus sur le peuple juif, après marqué, après, le monde va se rappeler de l'alliance. Pour l'instant, on n'invoque pas l'alliance. Vous comprenez? Ça veut dire que l'alliance, ce n'est pas une donnée du présent, pour l'instant. C'est une donnée de l'avenir. Ce n'est pas une donnée du présent. Je ne peux pas invoquer l'alliance. Si maintenant je disais, voilà, on veut sortir la galoute à cause de l'alliance, on te dit non. Ça ne fait pas partie du contrat maintenant. C'est pas présent. Le Zrout, oui. Comprenez la différence. Il y a des ruptures de contrat. Même si elles sont momentanées, elles existent. Mais Midata Rachamim, il n'y a pas de rupture. Quelqu'un doit pouvoir lui faire confiance. C'est le contrat entre le Zrout et le Brit. Pire, il y a marqué un verset très embêté, il y a marqué Vaizkor et Briti. Alors je me rappellerai l'alliance. Et avant, tu ne te rappelais pas. Et avant? Non. Il y a des moments où l'alliance elle est caduque, tu ne peux pas l'invoquer. Dans le principe, elle existe. Dans l'avenir, elle existera. Mais dans le présent, elle peut ne pas exister. Mais le Zrout Avot, ça va rester. S'il y a eu des bons juifs, ben nous aussi on va peut-être être des bons juifs. Alors, laisse-nous. On va essayer. Comprenez? Quand on dit à Rosh Hashanah qui pose, Rol Avraham, Yitzhak ou Yaakov, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Mais le Brit, on ne peut pas l'invoquer. Comme il a vu qu'il y en a qui ont réussi, alors laisse-moi peut-être réussir aussi. C'est ça le sens. C'est pas la protectia. C'est pas ça. On a une fois que c'est le pshat, ma se avot siman abanim. Alors on a dit ma se avot, on a racheté tout au début de Bereshit, la même, ma se avot, les œuvres des pères, siman abanim, c'est un signe pour les enfants. Il y a deux interprétations. La première interprétation, c'est de dire, tu sais pas comment faire, et bien regarde comment ils ont fait. Mas et Avot, c'est un signe pour les enfants. Mais il y a une deuxième interprétation qui est Mas et Avot. Ce que les parents ont réalisé, Siman, c'est un signe que les enfants aussi peuvent être capables de ça. Ça sera un peu le soutien.
lui un empire de brit.
Encore une fois, la galoute, c'est une période de brit pour l'avenir, c'est pas une période de brit pour le présent.
Non, mais tu veux écouter voir ce qu'on a dit, hein? D'accord. Monsieur Arouas, là, qui est curieux, avec Madame Arouas.